Bonsoir Mishka.
Bonsoir Alexandra, vous allez être de retour d'ici une heure, mais alors ce soir, je ne sais pas si vous êtes au courant, il va falloir pousser la table contre le mur, replier les chaises, prévoir une dose raisonnable de votre carburant préféré. Voilà, je suis sûr qu'en un clin d'œil, vous serez prête, vous Alexandra, enfin je m'adresse aussi à tout le monde, hein, pour vous serez prête pour la transe du jeudi soir. C'est parti.
All right, y'all. Here we go. If you stomp your feet, cause you're listening to the sound of the show, shall need. I'm the K-I-N-G, the G-I-M, King Jim the Third, and I am here, just me, Fat Fat, and the crew, we're doing it all, just for you. We're strong as an ox and tall as a tree, we can rock it so viciously. We throw the highs in your eyes, the bass in your face, we're the funk machines that rock the human race. Skate down, boogie shot, come on girl, let's do the rock, slam dunk, do the jerk, let me see your body work. To the break, everybody. To the break, everybody. Two, four, six, eight. Fat back, don't you hesitate. So I said it was me, your little old cuz. I said to open the door and let me in. I rock you so good you want it again. I rock you so good you heard bells ring. They went a ring ding dang a ding a ding ding. Ring ding dang a ding a ding ding. To the beat, everybody. Once you reach the top, you won't be alone. You got King Jim on the microphone. Just grab your partner, you start to swing. Cause I'm well known just like Burger King. I don't sell burgers, over and fries. I'm only here to make your nature right. Just grab your partners around and round. Just grab her by the butt and boogie it down. Just open up a jacket and open a bra. And dance just like at the Mardi Gras. I'm the man of action, the main attraction. The girls call me the satisfaction. I'm the Romeo, the Casanova. Here's the night I'm going.
Une manière un peu abrupte de couper le sifflet à ce rappeur d'autrefois, mais c'était comme ça en ces temps lointains. Imaginez que ce que vous venez d'entendre est historiquement le premier rap de l'histoire des États-Unis à avoir rencontré un succès commercial grand public. King Tim the Third, attribué à un groupe new-yorkais oublié du nom de The Fatback Band, est sorti fin 1979, ça fait un bail, très peu de temps avant le fameux Rapper's Delight du Sugar Hill Gang, un tube mondial, dans un style que beaucoup, en ce temps-là, considéraient comme rigolo et anecdotique, en tout cas, sans lendemain, tout comme le rock'n'roll une vingtaine d'années auparavant. Et oui, c'était alors l'apogée de la période disco, le monde entier se déhanchait alors sur le Freak ou Good Times du groupe Chic ou encore Hot Stuff de Donna Summer. À moins d'être très au courant de ce qui se passait à New York, très peu de gens étaient conscients que le rap existait et encore moins qu'il allait devenir un genre à part entière. King Tim III, qu'on vient d'entendre, était né, sinon d'une improvisation, du moins d'une idée extrêmement spontanée. Alors je vous explique en deux mots, The Fatback Band est un groupe qui avait vu le jour une dizaine d'années auparavant, à New York, à l'initiative d'un batteur et chanteur de jazz du nom de Bill Curtis. The Fatback Band, poussé par le vent de l'histoire, était naturellement passé du jazz au disco-funk. Alors, comment ce groupe en est-il arrivé à faire un rap ? Alors, il faut expliquer que ce King Tim III, qui donne son nom à la chanson, le roi Tim, troisième du nom, en fait, c'est quelqu'un qui existait vraiment. De son état civil, Timothy Washington, c'était un de ces très jeunes DJ qui animait, dans le fameux quartier new-yorkais du Bronx, ce qu'on appelait des block parties, hein, des fêtes autour de pâtés d'immeubles, des fêtes où les DJ étaient équipés d'une simple platine et d'une sono rudimentaire. Les gars du Fatback Band, en fait, l'avaient croisé. Et il s'était dit en studio, tiens, pour ce titre, pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas à King Tim de venir en studio ? Alors ils ont envoyé quelqu'un le chercher, à l'époque évidemment les portables n'existaient pas, il paraît qu'il a fallu toute une journée pour retrouver sa trace dans la cité où il habitait, et c'est ainsi que King Tim III est entré dans la postérité. Alors pourquoi éclairer ce soir ce point des débuts de l'histoire du rap ? Parce qu'une remarquable anthologie du genre vient de sortir et elle s'appelle Smithsonian Anthology of Rap, l'anthologie du rap du Smithsonian. Je vous expliquerai en deux mots ce que c'est. 9 CD, 129 titres, un livret de 300 pages avec quantité de photos et de documents d'époque. Ça donne vraiment l'impression d'être la somme définitive sur le genre. Donc ça part de The Fatback Band qu'on vient d'entendre et ça va jusqu'à J. Cole, Drake en passant par Dr. Dre et quantité d'autres. Parmi le comité de spécialistes qui ont supervisé ce coffret, on note la présence de Chuck D, hein, le principal rappeur du légendaire groupe new-yorkais Public Enemy, fin des années 80, ainsi que la première rappeuse de l'histoire, MC Light, également new-yorkaise. Alors qu'est-ce que c'est le Smithsonian ? Eh bien, c'est un vaste complexe de musées situé dans la capitale fédérale des États-Unis, à Washington D.C. Il y en a un parmi ces musées qui est spécifiquement consacré à l'histoire et à la culture africaine-américaine. Enfin, pour résumer, le Smithsonian, c'est toute la mémoire, toutes les archives de l'histoire des États-Unis, la musique en est évidemment une partie centrale, essentielle. Alors, en association donc avec le Smithsonian, eh bien la compagnie de disques Folkways publie depuis plus de 60 ans les trésors folk, blues, country et maintenant rap de la musique populaire américaine. Autre travail exceptionnel que je vais vous faire, enfin je vous en ai un aperçu maintenant, celui d'un remarquable découvreur de musique, hein, son émission de radio à la BBC fait l'objet d'une admiration mondiale, je veux parler du Suisse Gilles Peterson. Associé à Stuart Baker, un Anglais, un fondateur de la compagnie de disques londonienne Soul Jazz, à l'origine de découvertes et redécouvertes de toutes sortes de genres dans les musiques du monde, eh bien Peterson a réuni tout un ensemble de musiques qui ont été produites sur l'île de Cuba, entre 1959, année de la Révolution, jusqu'à 1990, année du départ des Soviétiques. Il en existe deux volumes, intitulés Cuba Music and Revolution, sous-titré justement Culture Clash in Havana, Experiments in Latin Music, soit le choc des cultures à la Havane, expérimentation au sein de la musique latine. Alors c'est un ensemble d'enregistrements absolument introuvables, d'ailleurs que pratiquement personne ne connaissait en dehors de l'île, à part évidemment les grands spécialistes. Alors quand on écoute au hasard toutes ces musiques retrouvées, on va de découverte en découverte et d'émerveillement en émerveillement, et parallèlement, les deux hommes ont édité un beau livre du même titre qui réunit ces pochettes de disques à l'esthétique aussi audacieuse que les musiques qu'elles accompagnent. Alors malheureusement, à la radio, je ne peux pas vous les montrer, mais enfin, je peux vous faire entendre de beaux échantillons. En voici un, Inole Convienes, c'est un titre signé Juan Formel, qui fut un des musiciens les plus brillants de la période, bassiste, chanteur et chef d'orchestre d'un des plus grands orchestres de l'île, Los Van Van. We'll be right back.
تصير المليحة تولي يا عين ما دام غري ما دلي ورانك عليه تصير المليحة تولي يتبل بنادم حق بعد ريته يا عين ما مر الفراق تريته يتبل بنادم حق بعد ريته شوالي عابد ما توشعك يا عين خير الدلة والصبر ما كيف دوال العلة ما توشعك يا عين غير الدلة والصبر ما كيف دوال العلة
Ça vous dit quelque chose? Bah oui, forcément, évidemment, c'est une adaptation du Stay in Alive des Bee Gees, le sommet de leur période disco-funk à la fin des années 70. Le monde entier connaît ça et ça a bien entendu traversé toutes les frontières. Cette adaptation très libre s'appelle Ya and Delhi et est signée par un musicien libyen de la même période, Najib Alhouch. Alors, je dois cette découverte à une compagnie de disques berlinoise, Habibi Funk, qui a publié cette année le second volume d'une compilation qui s'appelle, très explicitement d'ailleurs, An Eclectic Selection of Music from the Arab World, une sélection éclectique de musique du monde arabe. Et ben voilà, c'est exactement ça. On doit donc cette découverte, parmi beaucoup d'autres, au voyage au Moyen-Orient, autour du bassin méditerranéen, de Yannis Sturz, qui, j'ai appris ça grâce à un article de Catherine Carrette sur le site de FIP, s'est rendu plusieurs fois au cours de ces dernières années en Libye, au Maroc et en Algérie, pour une sorte de chasse aux trésors perdu, ceux d'un funk nord-africain extrêmement vivant dans les années 80. Alors là, c'est mon avis, mon interprétation en tout cas, ce style disco-funk appliqué à la musique qu'on entend tout autour du bassin méditerranéen n'a absolument rien d'une bizarrerie d'époque. C'est pas une hybridation incongrue, bien au contraire. Écoutez ces phrases de violon à l'unisson qui scandaient à l'origine le tube Stayin' Alive des Bee Gees. Saviez-vous qu'elles étaient l'œuvre d'un certain Arif Mardin, un musicien originaire de Turquie, d'Istanbul, et dont le destin avait changé quand il avait croisé le chemin de Quincy Jones, vous savez, un des grands orchestrateurs du jazz, du funk et de la variété de la seconde moitié du siècle dernier. Vous connaissez forcément Quincy Jones sans le connaître, puisque les orchestrations et le son des premiers tubes de Michael Jackson adulte, évidemment, c'est son œuvre. Bref, Arif Mardin, je reviens à lui, grâce à une bourse, a pu étudier la musique au célèbre Berklee College of Music de Boston, aux États-Unis, et il a rejoint l'équipe des disques Atlantic, où il s'est senti parfaitement chez lui. Pourquoi ? Parce parce que ce sont des Turcs, les frères Nesui et Ahmet Ertegun, qui dirigeaient alors Atlantic. Et mon hypothèse, c'est vraiment une hypothèse, c'est que Arif Mardin a plaqué très naturellement à ce rhythm and blues sophistiqué des années 70, du milieu des années 70, qui était donc celui des Bee Gees, et qu'on a appelé un peu abusivement disco, enfin bon, c'est resté, on a plaqué à ce style, Arif Mardin a plaqué à ce style, des orchestrations qui étaient déjà celles des musiques populaires du bassin méditerranéen, dans lesquelles Mardin avait baigné. Et qu'il y ait un disco-funk méditerranéen, c'est pas encore une fois une curiosité exotique, mais une sorte de retour de cette musique, enfin une partie de cette musique, à sa source. Et si vous avez la curiosité d'écouter cette compilation de Habibi Funk, voilà, une sélection éclectique de la musique du monde arabe, et eh bien je vous conseille d'écouter aussi une chanson qui s'appelle Badala Zamana, signée d'une certaine Zora, ça apporte de l'eau à mon moulin, si j'ose dire. Autre chose à présent, alors tout à fait un autre genre de funk, on a réédité cette année les quelques titres qu'a enregistré un groupe new-yorkais il y a très longtemps, les Bush Tetras, qui a marqué la riche année 1980, malgré le fait qu'il n'avait même pas pu sortir d'album. Enfin, il a marqué l'année, cette année-là, hein, pour une petite communauté d'amateurs. J'avais eu la chance d'entendre et voir jouer les Bush Tetras au Bain Douche à Paris. C'était très nouveau à l'époque. Et c'était, chose rare, un groupe animé par deux femmes, la guitariste Pat Place et la chanteuse Cynthia Slay. Leur groupe a eu une durée de vie assez brève. Il faisait partie de ce circuit très particulier, avant-gardiste new-yorkais entre punk et free jazz, qu'on a appelé par moquerie No Wave, hein, la non-vague. Voici les Bush Tetras dans You Can't Be Funky, et c'est ce soir dans Very Good Trip sur France Inter.
Talk.
Encore une réédition très bienvenue cette année, celle des premiers albums d'un groupe dont on ne cesse de réévaluer à la hausse, bien sûr, l'importance et l'influence. Je veux parler du groupe du nord de l'Angleterre, Gang of Four, dont on vient d'entendre What We All Want. C'est une chanson extraite de son deuxième album, Solid Gold, paru en 1981. Gang of Four a surgi en 79, une période où beaucoup de musiciens en herbe, galvanisés par l'insurrection punk, qui avait suscité un enthousiasme désordonné, se demandaient quoi faire. Les plus lucides ont vite vu les limites d'un rock'n'roll accéléré, aboyé par des chanteurs qui se prenaient pour Iggy Pop, sans toujours y parvenir très bien. Ils ont cherché ailleurs, en particulier dans la direction du funk, du reggae, et surtout de son dérivé instrumental, le dub, ce qui était déjà le cas chez The Clash. Cette période charnière a vu l'émergence d'un étrange funk blanc aux ambiances blafardes. On dansait avec frénésie, oui, mais en gardant sa crispation et son anxiété. Ça paraît bizarre, dit comme ça, mais c'était possible. Les musiciens de Gang of Four s'étaient rencontrés à l'université de Leeds au milieu des années 70 et ils avaient inventé une combinaison nouvelle, une rythmique funk plus raide que souple, des chansons dont les paroles très acerbes appuyaient là où ça faisait mal, hypocrisie, lâcheté, sens de la culpabilité. C'était pas une dénonciation conventionnelle des pouvoirs façon la société est pourrie, c'était plutôt la société a fait de moi quelqu'un de pourri et qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir. C'était moins facile et beaucoup plus tranchant. Gang of Four a eu aussi une immense influence, pas seulement musicale, dans les thèmes des chansons, sur Kurt Cobain par exemple. Et d'ailleurs, dans les deux premiers albums de Gang of Four, Entertainment paru en 79 et Solid Gold en 80, eh bien, ces deux albums ont constitué une sorte de bréviaire pour nombre de groupes de rock alternatifs aux États-Unis sur la côte ouest. Je pense en particulier à Gossip, le groupe qui a révélé la chanteuse Beth Ditto. Et d'ailleurs, Nathan Howdeshell, le guitariste, s'est beaucoup, beaucoup inspiré du jeu de Andy Gill de Gang of Four. Andy Gill, un musicien autodidacte, au jeu instinctif, incisif, fait de phrases hachées comme cisaillé ou mitraillé. Andy Gill nous a quitté il y a bientôt 2 ans et on a pu mesurer l'ampleur de son influence, à en juger par tous les hommages qui ont surgi de partout. Alors voici venu le moment où je sors de mes tiroirs les plus obscurs des obscurités pour leur offrir une pleine lumière amplement méritée. Il y a 20 ans, un groupe néo-zélandais du nom des Subliminals s'isolait dans une maison bâtie en lisière d'une plage sur l'île nord de la Nouvelle-Zélande, une maison alimentée par la seule énergie solaire. Bon, enfin, pour enregistrer leur album en 3 jours, ils auraient tout de même triché un peu en utilisant un groupe électrogène. En tout cas, 20 ans après, cet album, publié en 2000, ressort et c'est, pour mes oreilles et j'espère aussi pour les vôtres, une révélation. Les Subliminals nous font entrer dans une transe particulière, très marquée par un certain psychédélisme allemand. Je pense en particulier à celui du groupe de Cologne, Can, qui a, lui tout seul, je simplifie un peu, établi une sorte de pont entre un psychédélisme jazzy, propre à la fin des années 60, et les ambiances beaucoup plus dures et oppressantes de l'après-punk. Et puisqu'on parle de réédition, eh bien il y en a une de taille cette année, celle d'un enregistrement inédit d'un concert que le groupe Can a donné en 1975 dans la ville de Stuttgart. Une sorte d'hypnose musicale qui, d'ailleurs je blague à moitié seulement, pourra vous aider à décoller et à remédier à tout ce qui a pu vous oppresser et déprimer en cette grise journée d'automne. Alors je fais un pari, celui d'une séquence de trance qui passera par un autre retour en arrière, vers l'électro syncopé et polyrythmique d'un musicien de la banlieue est de Londres, Square Pusher, dont on réédite le premier album paru en 1996, Feed Me Weird Things. Mais tout de suite, la trance commence ce soir dans Very Good Trip sur France Inter avec les Subliminals de Nouvelle-Zélande dans un titre qui s'appelle Oh-Oh. We'll
Eric Goodtrip sur France Inter, Mishka Assayas.
Thank you.
Et imaginez qu'il y en a encore 20 minutes comme ça. C'était une improvisation du groupe Cannes en 1975 à Stuttgart. Jackie Liebezeit à la batterie, Holger Tsukai à la basse. Enfin, je ne vais pas tous les énumérer, c'était un groupe vraiment historique. Une réédition magnifique. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci beaucoup à Thomas Loupias qui a réalisé l'émission. Merci à Alix Barrois, la technique, Romain Couturier, la discothèque de Radio France et Zora Ben Smiley.